Donc là, on marche sur le Lego. Moi, je suis sur le blanc.
Et souvent, ils jouent à ça, les enfants. Ils sautent de couleur en couleur. Et parce qu'on voulait, on voulait que ce soit très simple, mais en même temps qu'à tout moment, ils puissent agir et transformer l'espace. Et l'avantage des Lego, c'est qu'ils peuvent construire, déconstruire, se faire des fauteuils, se faire un petit squat, une petite table ici avec leur matériel. Ils s'amusent aussi souvent à se construire. C'est eux qui commençaient à se construire des ponts. Et donc, on s'est dit, tiens, ça tombe bien avec la thématique. Hein, construire des ponts entre les deux parents, souvent. Ça, c'est quand ils jouent c'est des pupitres, quand ils jouent aux hommes politiques.
Ils ont un petit espace avec quelques accessoires, des photos, un dessin, un disque de Souchon.
En fait, on leur a demandé de venir avec un objet qui leur tenait à cœur. Et c'est soit des photos, soit des pyjamas de naissance, et autour duquel ils ont toujours une histoire.
Des photos d'identité, un dessin. Et il y a aussi en grandeur nature des parents.
Ça, c'est une coquetterie de notre part. Et parce qu'à chaque fois, ils disaient « ma mère, ma mère, ma mère ». On se dit « mais à quoi elle ressemble ta mère ?» Et assez vite, on s'est dit « mais c'est quoi la mère idéale, elle ressemble à quoi ?» Et donc, on a compilé un peu les descriptions. Et c'est trop que la mère idéale, elle ressemble à la maman Lego, à la maman Playmobil. Donc on a pris cette maman Playmobil. C'est pour ça qu'à un moment donné, d'ailleurs, Eloria, elle dit « bon, ma mère, elle n'est pas blonde, mais au théâtre, on dit ce qu'on veut. »
Et le père, il est fan de foot.
Ça, c'est le problème, c'est qu'on est un peu limité chez Playmobil. Les hommes, ils sont pompiers ou joueurs de foot. Alors.
Puis il y a aussi quelques petits instruments de musique dont certains nous rappellent nos cours du collège.
C'est douloureux, hein, la flûte à bec.
C'est très douloureux.
Alors, c'est un vrai plaisir de l'entendre, mais les répétitions, c'est horrible. Et c'est tellement facile de jouer faux avec une flûte à bec. Et c'est amusant de les voir s'entraîner. Et à chaque fois, ils sont là à traquer. Mais qui joue faux? Qui joue faux?
Là, c'est le moment des répétitions. Donc, tous les enfants viennent de rentrer chez eux après la répétition. Et on va pouvoir s'asseoir dans la salle pour parler.
Allez.
Il est 20h sur France Culture et le spectacle aura une durée de vie limitée. Il ne peut pas s'étirer, il sera joué cette année. Ils ont 8, 9 ou 10 ans, après ce sera trop tard, après ils seront au collège et ce ne sera plus pareil. Mohamed El-Khatib met en scène des enfants. Sur scène, il joue avec la vie, alors ce n'est pas infini et c'est précieux. Il a déjà imaginé des spectacles avec une femme de ménage, des supporters du FC Lens, avec des corps différents, pas préparés, pas entraînés, pas virtuoses. Des corps qui ont une histoire. Mohamed El-Khatib ne vit pas comme les autres. Il vit en imprimant les détails. Il vit en zoomant, en permanence, sur les mots que vous avez choisis, sur la note prise dans votre carnet, sur une photo retrouvée. Il observe, il collecte et puis il écrit. Dans la dispute, il y a 6 enfants sur scène, 6 enfants dont les parents sont divorcés et qui vont raconter, en naviguant entre le mensonge et la vérité, leurs histoires et leurs sentiments, notamment en s'adressant à leurs parents. Mohamed El-Khatib, sur scène, on l'a connu enfant. C'était il y a quelques années, pour finir en beauté, pour parler de la mort de sa mère. Il était adulte, mais il posait des questions d'enfant. Il se demandait s'il avait été au niveau, si sa mère avait finalement compris son métier, sa passion, le théâtre. Cette fois-ci, il remonte le temps, on a tous 8 ans, on observe tous mentalement à nouveau ses parents. On avait de toute façon tout compris à leur mise en scène quotidienne. Enfant, on voit très bien ses parents. Sur scène aujourd'hui, les enfants refont leur vie et les parents, eux, les voient pour la première fois. « C'est le moment des répétitions. Quelques jours avant la première, nous sommes au théâtre avec les enfants et avec Mohamed El-Khatib qui met en scène La Dispute. Ce sera jusqu'au 1er décembre au Théâtre de la Ville, à l'Espace Cardin avec le Festival d'Automne. Ce sera ensuite au Théâtre de Beauvaisis le 6 décembre et au Théâtre de Choisy-le-Roi le 12 janvier avant une tournée partout en France au printemps. Nous serons en studio avec la musicienne québécoise Safia Nolin. Elle sort son EP Reprise Volume 2 et le deuxième Emo Songs to Sing Along. Elle sera en concert le 16 novembre à la Maison de la Poésie à Paris et le 28 novembre à la Java pour la soirée Music Queer. C'est Tous en scène sur France Culture et ça commence par la voix de Swan, le tout début du spectacle.
Ça marche ? Vous m'entendez ?
Bonsoir. Je m'appelle Swan. Et en fait, je voulais juste vous dire que normalement, je joue dans le spectacle. Mais en fait, je pouvais pas être là ce soir. Donc, c'était pour m'excuser. Parce qu'en fait, mes parents, ils ont pas réussi à se mettre d'accord. Parce qu'en fait, ma mère voulait que je fasse le spectacle. Et mon père, il voulait pas. Et donc, du coup, je peux que le faire une semaine sur deux quand je suis chez maman. Et là, pas de chance pour vous, c'est la mauvaise semaine. Mais de toute façon, ça va, hein. J'ai l'habitude. La seule fois que j'ai vu mes parents d'accord, c'était pour la séparation. Par contre, je suis un peu inquiète pour ce soir. J'ai peur que quand je suis pas là, le spectacle il soit moins bien. Bon bah, bon spectacle quand même. Gros bisous.
Mohamed El-Khatib, au départ, je crois que c'était une pièce pour la jeunesse, en tout cas une commande de pièce pour la jeunesse, et finalement, c'est par la jeunesse.
Ouais. J'ai un peu mal à la gorge, excusez-moi. J'ai jamais eu des répétitions aussi crevantes qu'avec les enfants. Les enfants, j'ai plus de voix à la fin de la journée. C'est une énergie. En fait, je referai pas de spectacle avec des enfants. C'est trop d'énergie. Et oui, c'était le début. C'était un malentendu. C'est que je pensais écrire une pièce pour la jeunesse. J'ai fait un spectacle pour enfants. Et je trouvais que c'était un vrai défi, un enjeu. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais assez mauvais pour ça. Enfin, c'est un autre métier, écrire pour les enfants. Et je m'en suis rendu compte assez vite dans le processus, donc heureusement, quand j'ai revu l'équipe du Théâtre de la Ville, j'ai dit je n'arriverai pas à écrire une pièce pour des enfants. Par contre, je veux bien rencontrer des enfants et travailler avec des enfants. Et là, d'un coup, ils sont devenus, eux, les co-auteurs du spectacle. C'est-à-dire, écrire avec des enfants, ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, et c'est comme ça qu'est née la dispute.
Et pourquoi cet âge-là ? Parce que c'est un âge particulier. Je crois qu'au départ, le thème, il n'était pas forcément défini, celui de la dispute, des parents divorcés. Mais l'intuition que vers 8-9 ans, il se passe quelque chose au niveau de la parole, ou en tout cas de ce qui est possible de capter à cet âge-là, comment c'est venu ?
J'ai voulu, au début, rencontrer les enfants et discuter avec eux, avoir des conversations très libres. Et donc, à l'école primaire, donc j'ai rencontré des enfants de 6 à 10 ans à peu près, et on parlait de tout, de qu'est-ce que c'est que pour toi l'amour, pour qui tu votes, si tu pouvais voter, qu'est-ce que tu penses du président de la République, qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier.
Ils avaient des réponses à tout.
Ils avaient réponses, c'était assez drôle, assez touchant, mais très vite je me suis rendu compte que dans ces conversations, il y a quelque chose qui était une vraie préoccupation quotidienne, c'est l'organisation, leur vie de famille. Et assez tôt, je me rends compte que la plupart des enfants, enfin beaucoup en tout cas, avaient des parents séparés. Et à un moment donné, je fais ce test de façon un peu comme ça aléatoire. Je dis à un groupe d'enfants, je suis dans une classe en banlieue parisienne, et je dis à un groupe d'enfants, mais attendez, ceux qui ont des parents séparés, levez la main. Et là, il y a 3/4 de la classe, lèvent la main. Et d'un coup, le sujet m'a sauté à la figure. Quoi. Et pour aller plus loin, c'est assez cocasse, c'est que j'interroge les enfants, etc. Donc parlez-moi de la séparation de vos parents, puisque ça a l'air d'être un sujet qui vous préoccupe. Et puis il y a un enfant qui en parle avec une extrême précision, il me donne beaucoup de détails, je dis c'est super, est-ce que tu veux venir raconter ça sur scène ? On contacte ses parents et son parent me dit mais on n'est pas du tout séparés. Et donc on demande à Imran, mais pourquoi tu nous as dit qu'ils étaient séparés ? Et il a dit mais je voulais faire le spectacle. Et j'ai trouvé ça super, c'est-à-dire que même que socialement aujourd'hui, que presque, non pas la norme, mais qu'un enfant ait envie de puisse raconter des histoires pour participer à une pièce de théâtre, je trouvais ça plutôt réjouissant. Et dans
il
les
est dans le spectacle.
Et il est dans le spectacle. On fait cette entorse-là, il y en a un dont les parents sont pas séparés. Et 8 ans, je me suis rendu compte que c'était l'âge où, à la fois, il y a encore une forme de naïveté et une fraîcheur, et donc ils disent tout, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Et un enfant à 8 ans peut dire, si on lui dit tu préfères ton père ou ta mère, il répond très tranquillement, il répond pourquoi. Alors que 10, 11 ans, c'est plus compliqué, on commence à. Il y a un contrôle de la parole, on parle moins. Donc à la fois, 8 ans, il y a une hyper lucidité, et il y a quand même quelque chose qui reste extrêmement enfantin, et qui donne une parole complètement libre. Et ça, c'est excitant.
Et c'est quoi la place des parents et peut-être leur idée sur leur enfant qui va faire du théâtre, qui va parler de ça, comment, parce que là ils sont pas présents en répétition. Tout à l'heure on parlait aux enfants et ils nous disaient qu'ils avaient pas forcément vu et ils savent pas tout ce qu'il y a dans le spectacle. Donc comment, c'est quoi la distance avec les parents?
Alors il y a une grande complicité avec les parents et une bienveillance de leur part, hein, c'est-à-dire qu'ils sont en totale confiance. Et je pense qu'il va y avoir un vrai choc, c'est-à-dire que je crois qu'ils n'imaginent pas ce que sont capables de dire leurs enfants, ce qu'ils imaginent, ce qu'ils pensent des situations, l'analyse qu'ils font des séparations. Comment eux, souvent ils nous disent, nos parents ils ont refait leur vie, mais nous aussi on refait notre vie. Et voilà comment on refait notre vie, et refaire sa vie. Et dans ce sens-là, ça va être un choc parce que. On soupçonne pas ce que peuvent raconter ses enfants. Et moi-même, ça m'a, j'étais bouleversé. J'imagine que pour les parents, ça risque d'être une sacrée surprise, quoi.
Mes parents, parfois, ils se disputent pour la banque, pour pour l'argent et tout ça.
Ils se disputent parce que ma mère, elle a pas fait la vaisselle. Enfin, elle l'a fait mal, ou je sais pas, des trucs comme ça.
Ma mère m'a dit que, mon père critiquait un peu son travail. Et l'inverse aussi.
C'est des disputes amicales. Comme Astérix et Obélix. À la fin, ils se réconcilient toujours.
C'est toujours ma mère qui tire des schémas incompréhensibles. Comme mon père rentre toujours tard parce qu'il est avec une autre fille. Alors il rentre toujours tard parce qu'il est soit dans l'avion, soit dans le train, soit au bureau. Ça, tout le monde le sait.
Mais ma mère est genre, dont je ne veux rien entendre, il m'a trahi.
En fait, les deux, ils s'aiment beaucoup, mon père et ma mère. Du coup, ils ont dit qu'ils ne vont jamais se séparer, les deux. Là, comme l'un l'autre.
Tu penses qu'ils vont tenir leur promesse?
Oui. En tout cas, ma mère, c'est sûr.
Mes parents, ils se sont séparés parce qu'ils étaient plus amoureux.
Comment tu sais qu'ils étaient plus amoureux?
Mon papa, il dormait dans le salon et ma maman dans le lit.
Moi, j'ai remarqué que mes parents, ils s'aimaient plus parce qu'il n'y avait plus aucun geste de tendresse entre eux.
Des fois, je me dis pourquoi à chaque fois, il y en a un qui est là et l'autre, il est en soirée. Parce qu'ils font exprès d'être en soirée, comme ça, ils se voient pas. Il y a papa, il va en soirée, maman, elle nous garde. Après, c'est maman qui va en soirée, après, c'est papa qui nous garde.
C'est drôle, c'est toujours le jeu entre la vérité et le mensonge finalement pour les enfants dans leur vie, puis là au théâtre, et puis rien que cette histoire de divorce, de dispute, de séparation, ça commence par un secret, par un mensonge, parce qu'on ne le dit pas tout de suite aux enfants, puis après on réfléchit à comment on met en scène l'annonce, et donc tout est lié autour de la vérité et du mensonge, et eux ils s'en amusent sur scène. Puisque par moments, ils vont dire, j'ai dit ça tout à l'heure au début du spectacle, finalement c'est pas vrai. Enfin, comment ils se sont emparés de ça, du jeu autour de ces nos histoires, mais on a le droit de mentir, on a le droit de raconter d'autres choses.
Pour ça, il y a un double point de départ. Il y a celui d'Imran d'abord qui nous dit effectivement, qui nous raconte une histoire très précise alors que ses parents ne sont pas séparés. Et donc j'ai le droit de raconter des histoires pour participer à un spectacle. Et puis il y a un autre enfant qui nous disait, moi je suis en garde alternée, un jour chez papa, un jour chez maman. Et on interroge les parents et on se rend compte que c'est pas du tout vrai. Et donc on se dit, mais pourquoi il raconte cette chose-là, pourquoi pour se protéger il a besoin de cette fiction-là? Et à partir de là, on s'est autorisé d'une certaine façon en leur disant, vous nous racontez ce que vous avez envie de nous raconter, mais après, si vous n'êtes pas à l'aise pour pouvoir le partager en public, alors vous pouvez vous appuyer sur les camarades qui sont avec vous sur scène. Et donc, ça a mis en place une espèce de circulation des histoires qui font que la plupart du temps, les histoires sont vraies, mais parfois elles sont portées par d'autres enfants. Et qu'un enfant s'autorise des fois à rajouter des éléments de sa propre histoire dans celle-là. Donc, ça devient une espèce de... un pot commun comme ça d'histoire de séparation. Et ça contribue à mettre de la distance, d'abord pour les enfants, et du plaisir, quoi, le plaisir de pouvoir jouer ça. Et puis de combler un peu... je pense que la vraie question, c'est que la séparation, c'est un mystère pour les enfants. C'est un mystère. Et la seule façon d'élucider ce mystère, c'est des mots, c'est la parole. Et d'un coup, il y a quelque chose qui se répare à cet endroit-là. Il y a une mise en parole de la séparation, et d'un coup, on contribue à y voir plus clair.
On va écouter juste un petit extrait de La Voix de Truffaut. C'est en 1976, et il parle plutôt du cinéma, mais de ce que c'est d'avoir des enfants, de travailler avec des enfants.
Il y a une vérité des enfants qui est assez négligée au cinéma, donc je sens là un domaine où j'ai des choses à dire, et parce qu'en général, on ne met pas d'enfants dans les films, on les met que quand ils sont vraiment nécessaires, on n'aime pas mélanger les enfants et les adultes, et on arrive à une espèce d'injustice que la représentation des enfants dans les films n'est pas proportionnelle à leur importance dans la vie. C'est un domaine qui est presque sacré, c'est-à-dire que quand on fait une chose mal avec des adultes, ils peuvent se défendre. Quand on fait une chose qui n'est pas bien avec des enfants, ça touche au blasphème, parce que l'enfant c'est sacré. Il y a quelque chose, je crois que presque tout le monde est d'accord sur cette idée que l'enfant c'est sacré, parce qu'elle est innocente, parce que le combat n'est pas égal, donc on doit être, de même qu'on doit se conduire mieux avec les enfants qu'avec n'importe qui. Et c'est pareil évidemment en art, c'est pareil en cinéma. Et une chose que je trouve odieuse, c'est de faire dire à des enfants des choses qui vous arrangent, des dialogues adultes, des faux mots d'enfants, de leur donner des réactions d'une psychologie qui est à soi. Et curieusement, on peut imaginer que dans un drame dans la vie, et auquel seront mêlés des enfants, par exemple un divorce, on peut imaginer que des enfants auront des mots qui seront en relation avec cette situation. N'empêche que si on fait le film, eh bien, il est dégoûtant d'inventer ces mots. Je ne sais pas comment vous dire, vous voyez. Le fait même que l'enfance est censée être spontanée, qu'on ne peut pas donner à un enfant une chose vraiment écrite et articulée, le seul moyen de montrer des enfants vrais dans une situation, c'est de ne pas leur faire parler de cette situation.
C'était quoi la particularité là de travailler avec les mots des enfants, de les retravailler justement, que ça circule entre eux et que ça reste leurs mots à eux?
Quand je disais tout à l'heure que j'ai pas réussi à écrire une pièce jeune public, c'est que j'étais incapable de m'adresser à des enfants à hauteur d'enfant avec des mots d'enfant, et que je trouvais ça presque indécent d'essayer d'inventer des dialogues d'enfants, d'écrire à leur place, etc. Et donc c'est pour ça que très vite j'ai voulu m'associer avec des enfants. Et que le processus de travail, pour l'essentiel, a consisté à les enregistrer et à discuter. Et tous les matins, pendant une heure et demie, on discute, on s'enregistre. Et c'est ces matériaux-là, ces mots-là que eux font sonner à un moment donné, qu'on reprend sur scène. Et donc, ce spectacle ne peut pas exister sans eux, sans leurs paroles. Et après, tout le travail, ou toute la difficulté, elle est là, c'est-à-dire que spontanément, ils vous livrent une histoire. Et vous vous dites, ah, ça, là, il se passe quelque chose. Alors, tu voudras bien le redire tout à l'heure. Et je le redis tout à l'heure. Et là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que d'un coup, quand bien même c'est sa propre histoire, ses propres mots, il se remet à réciter. Il y a quelque chose qui... Alors, à la fois, c'est l'héritage douloureux de l'arrestation, de la poésie à l'école. D'un coup, le corps se fige et je me mets à réciter, etc. Et donc, ce qu'il y a de plus dur, donc, assez vite en ce moment-là, dans les répétitions, on essaye de travailler, de clarifier la structure, de faire et de refaire, pour qu'il soit le plus libre, et possible et qu'ils aient la possibilité d'improviser. En fait, j'aimerais en arriver là, à cet endroit où, où c'est aux enfants de prendre le pouvoir. Voilà le cadre qu'on vous propose. Et à partir de là, ça peut déborder. Et pour moi, ça serait, voilà, l'idéal serait là. Ce serait qu'à un moment donné, la pièce nous échappe, mais que eux se l'approprient.
Non. Est-ce que le gars, tu vas être comme les autres?
Mais là aussi.
Vous n'avez pas été des parents formidables. Vous avez même été parfois assez nuls. Mais on vous...
C'est plus...
Vous avez même été parfois assez nuls. Parfois assez nuls. Mais on vous fera pas de procès en amour. Vous nous avez aimés comme vous avez pu. Et certains d'entre vous, avec talent même.
Prends ton temps.
Et certains d'entre vous, avec talent même.
C'est presque plus cocasse, tu vois. Tu te
moques
un peu.
Certains d'entre vous, avec talent même. Alors, on vous en veut pas. On espérait seulement que l'un de vous ait le courage de nous dire que vous vous aimiez plus. Que parfois, on s'aime plus, alors on se sépare. Que la vie, c'est pas des pâtes au jambon.
Ah, vous avez raté. Voilà. On fait avec elle.
Que la vie, c'est pas des pâtes au jambon.
Ok, on va s'endormir là.
Que la vie, c'est pas des pâtes au jambon.
Ok, il y avait pas Imran.
Non, c'est moi qui ai
lancé. Que la vie, c'est pas des pâtes au jambon.
Voilà, et on regarde les gens. On regarde les gens à qui on parle.
On y va?
Ouais.
On fait là.
Tout à l'heure, pendant la répétition, il y a un des enfants qui a eu une crise de toux. Et donc, justement, vous disiez aux autres, c'est pas la peine de faire comme s'il se passait rien. Vous pouvez lui demander si ça va, vous pouvez lui donner un verre d'eau, vous pouvez prendre ces libertés-là.
Mais c'est amusant parce que c'est leur rapport au théâtre. Ils voyaient tel quelque chose de très sacré. Donc, on fait comme si de rien n'était, on continue. Et il y avait du mal, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'eux, ils sont extrêmement vivants. Et dès qu'ils rentrent sur scène, il y a quelque chose qui se fige, qui devient très scolaire. Et donc tout le travail consiste en... Non mais c'est pas grave, la façon dont on fait du théâtre, l'accident est possible. Il faut rendre l'accident possible. Et quand l'accident arrive, on fait pas semblant, on joue avec, etc. Et que, je leur dis souvent, mais le texte, on s'en fout le texte, c'est vous le texte. Donc il peut rien, vous pouvez pas vous tromper, c'est vous. Et en même temps, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et en même temps, c'est aussi touchant, c'est-à-dire de les voir des fois se mettre à réciter, ça me touche aussi. Et l'autre jour, je dis à un enfant, voilà, quand Imran a terminé, quand tu le sens, tu y vas. Et puis je vois qu'il y va pas. Et il me dit, mais j'y vais dans combien de temps? Je lui dis, non, mais quand tu le sens, 5-6 secondes. Et j'aurais pas dû dire ça. Et c'est-à-dire que Imran termine, et j'entends, mais comme il y a des micros, on entend tout, j'entends 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si vous voulez, c'est touchant aussi, quoi.
Est-ce que ça aide d'avoir le BAFA et d'avoir été animateur au CMEA à Avignon tous les étés, de s'être occupé de jeunes?
Mais ça m'aide pas que pour le théâtre, ça m'aide pour la vie en général, d'avoir travaillé dans un mouvement d'éducation populaire. Oui, il y a le désir. En tout cas, je me souviens quand j'étais animateur, on se disait comment on peut faire pour que les enfants soient autonomes, pour qu'ils grandissent, et essayer de leur donner des outils pour qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Et donc, la chose sur laquelle nous on peut agir, c'est l'environnement. Essayer de recréer un cadre théâtral qui soit suffisamment ouvert pour qu'eux puissent s'emparer et des matériaux scéniques, et des matériaux textes, et des objets. Il y a une série d'objets sur la table. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, ces objets changent, eux grandissant, puissent apporter d'autres objets, d'autres histoires, et que la chose évolue comme ça. Et donc, j'ai essayé d'avoir ce souci en disant comment on peut leur donner les moyens de grandir et leur donner les moyens que cette pièce devienne leur pièce. J'étais surpris un matin quand je leur ai demandé, mais qu'est-ce que ça vous fait de faire cette pièce de théâtre alors? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et je pensais qu'ils allaient me dire, ça va, c'est plutôt amusant, c'est assez ludique, on s'amuse bien. Et puis, j'étais un peu surpris d'entendre que ça permet de dire des choses qu'on n'a pas forcément le courage de dire à nos parents. Ça permet d'exprimer des sentiments qu'on n'ose pas. Et là, sous couvert de théâtre, on peut dire des vérités, etc. Et j'étais étonné de ça. C'était assez surprenant pour moi. Et en plus, je me méfie un peu. C'est-à-dire que le spectacle n'a pas vocation, c'est pas de l'art-thérapie. Enfin, ça, on n'a pas vocation à réparer quelque chose. Mais il n'empêche, c'est quelque chose qui se répare par l'émergence d'une parole qui est trop souvent oubliée et négligée. Et c'est ce que dit Truffaut, c'est la parole de l'enfance. Y compris, moi qui viens plutôt du champ de la sociologie, et par exemple, la sociologie a complètement délaissé le territoire de l'enfance. La sociologie, elle traite que des adultes en permanence, en oubliant qu'on a été des enfants, et que ces enfants ont été eux-mêmes en prise avec une réalité et avec des possibles plus ou moins limités.
On va écouter la voix d'un autre cinéaste, mais là c'est Luigi Comencini, et il parle aussi de la direction d'acteurs quand ce sont des enfants.
Il faut toujours avoir une attitude documentaire quand on fait travailler les enfants. Je déteste les enfants acteurs, les enfants qui disent des phrases qu'on leur a préparées. D'abord, pour écrire des rôles pour l'enfant, il faut connaître l'enfance à fond. Ensuite, quand on représente ces rôles, quand on les traduit en images et en scènes, il faut absolument éviter que l'enfant récite. Comment ? Quand j'ai choisi l'enfant pour faire Pinocchio, je me suis proposé de choisir un enfant qui soit Pinocchio, qui, par caractère, éducation, formation culturelle, très près du peuple, très libre, très curieux, très vivace, très intelligent, mais assez cynique.
Insolent.
Puisse avoir des réactions qui sont celles de l'enfant qui joue dans du personnage qui joue dans le film. Alors, il représente soi-même dans le film. Quand je tourne des films avec des enfants, j'en ai tourné plusieurs, je défends toujours à mes assistants de leur apprendre les lignes avant qu'on tourne. Parce qu'ils ne doivent pas réciter par cœur. Je cherche à reconstruire une certaine situation et à provoquer dans l'enfant la réaction que je désire, mais qui généralement doit coïncider avec celle qu'il aurait spontanément dans cette situation. Et on me dit toujours, quand je fais des films pour enfants, tu vas avoir besoin de beaucoup de pellicules, ça va être très dur. Non, c'est le contraire. Parce que si une scène est ratée à la première, à la deuxième fois, il faut la changer. Autrement, l'enfant se répète, il n'est plus vrai.
Comment on fait alors pour que, justement, pour ne pas être dans la récitation et en même temps, pour qu'il soit dans un cadre qui soit quand même rassurant?
C'est très touchant ce qu'on vient d'entendre. Mais c'est de créer un lien de confiance. Nous, un lien de confiance avec les enfants et un lien de confiance entre eux. Et la plupart du temps, quand d'un coup, et c'est quand même dingue que des enfants se mettent à réciter leur propre histoire que parfois ils ont inventée avec leurs mots à eux, le fait de la répéter, que ça devienne de la récitation. Et souvent, je leur dis, mais à qui tu parles? À qui tu l'adresses? Et d'un coup, quand ils se remettent à se parler à eux vraiment, alors on arrive à échapper à ça. Et après, j'aime aussi, la particularité de la dispute, j'aime pas ce mot-là, mais c'est quelque chose, disons le casting, parce qu'il n'y a pas eu de casting. C'est-à-dire que je travaille pas avec des enfants acteurs. Je n'ai pas cherché des acteurs, des enfants virtuoses. Donc il y a des enfants qui sont maladroits, il y en a qui sont pas forcément à l'aise avec la parole. Et pour moi, c'était important qu'on ait différents corps, des enfants de différents milieux sociaux, et que, je veux dire, ça m'intéresse pas que le texte soit bien dit ou pas bien dit. Dans le fond, je veux dire, j'ai pas envie d'avoir des petits singes savants qui réciteraient bien leur partition et on serait content, on aurait fait un bon spectacle. Mais qu'il se passe vraiment quelque chose chez eux et que chaque enfant apporte quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Et cette forme d'authenticité-là, on la trouve parce que, pour le coup, eux sont des experts de l'enfance, quoi.
Et de toute façon, votre travail, ça part toujours de rencontres et souvent avec des non-professionnels, que ce soit au tout début, je pense à Corinne Dada qui était femme de ménage, un stadium, un des spectacles récents avec des supporters du club de Lens de football. Et là, c'est quoi la particularité, que ce soit des enfants justement? Parce que souvent, c'est des gens qui n'ont pas forcément cette habitude de la parole, de la scène et qui n'ont pas d'expérience théâtrale. Là, le fait qu'en plus ce soit des enfants, qu'est-ce que ça change?
Il y a une difficulté très pratique, c'est qu'on répète très très peu. C'est-à-dire que c'est 4 heures par jour maximum. Et donc ça induit qu'on ne fait pas un type de répétition classique où on s'amuserait à faire et refaire pour faire mieux, etc. Mais on travaille davantage sur ce qu'il y a autour, sur les conditions. Les conditions d'une relation authentique entre les enfants, les conditions qu'ils soient suffisamment à l'aise, qu'ils aient du désir, qu'ils aient du plaisir. C'est l'enjeu est plutôt là. Après, par exemple, quand je repense à Corinne Dada, avec qui j'ai fait un de mes tout premiers spectacles, ben, un des dangers, c'est que c'est que Corinna a fini par devenir une actrice, quoi. Et comme les acteurs, elle a fini par se mettre à cabotiner, etc. Avec toutes les tics qu'on peut retrouver chez les acteurs. Alors là, pour l'instant, on n'en est pas là. On n'en est pas là avec les enfants. Et on n'en arrivera pas là parce que la règle du jeu étant qu'ils aient 8 ou maintenant 9 ans pour certains, dans un an, le spectacle est terminé. Parce qu'après, je considère qu'ils rentreront en CM2 ou en 6e, ils sont trop vieux, et la parole sera plus la même. Donc, cette limite-là nous protège.
On s'échappe du théâtre et on fait un détour en studio pour retrouver Safia Nolin. Son enfance à elle, c'était plutôt du côté de Limoilou, pas loin de Québec. Depuis toujours, elle aime les chansons tristes. L'écriture est arrivée au milieu d'une tristesse d'ado. Elle sort un deuxième EP de reprises, Reprises volume 2, avec encore plus de chansons qu'on connaît tous et qu'on aime écouter, voire chanter. J'ai demandé à la lune, tous les cris, les SOS. Safia Nolin, depuis quand vous aimez les chansons tristes ?
Depuis toujours, je pense. Depuis le début de ma vie.
Mais enfant et ado, on trouve un réconfort dans les chansons tristes ou on devient encore plus triste ?
Je pense que c'est un truc de devenir encore plus triste. Je me souviens exactement du moment quand j'avais peut-être 7 ans, où est-ce qu'on avait eu une espèce de colonie de vacances, puis à la fin, il y avait joué... Salut les amoureux de Joe Dassin, puis que j'avais pleuré, puis que c'est le premier moment que je me souviens que la musique m'a rendu plus triste que j'étais déjà.
Et après, l'écriture, c'était aussi lié à cet amour des chansons tristes.
Ouais, mais l'écriture, c'était plus une forme d'exutoire, là, t'sais, par rapport à ça, justement, à pouvoir sortir la tristesse et garder le beau à l'intérieur. Mais consommer, c'est vraiment un truc de... C'est comme connecté à un genre de canal un peu bizarre qui s'auto-génère de tristesse intérieure.
Et à 8 ans, vous étiez comment, si vous vous décriviez?
J'ai vraiment très peu de souvenirs de ma personnalité. Je pense que j'étais quelqu'un qui était colérique. Je me souviens juste d'être un peu colérique, très sensible, d'aimer déjà Céline Dion. Puis c'est tout. C'est à peu près tout. C'est vraiment flou.
Comme aujourd'hui?
Ouais. Mais je suis moins colérique, vraiment moins. Au moins, je travaille là-dessus, en fait.
Et aujourd'hui, de reprendre ces chansons-là qu'on connaît, les chansons de l'époque de votre enfance ou de votre adolescence, c'est quoi? C'est de la nostalgie ou c'est revivre ces émotions collectives parce qu'on connaît tous?
Ouais, c'est plus un truc collectif. À Montréal, quand j'ai lancé l'album, j'ai fait 2 spectacles, puis... Ça me connecte avec les gens de ma génération, mais vraiment beaucoup. Puis il y a quelque chose qui me redonne espoir parce que, bon, tu sais, je veux dire, c'est un hommage que je fais à ces chansons-là. Puis peu importe on est où sur la planète, mais nous, tu sais, mettons genre, au Canada, on est privilégiés, mais il y a des moments en politique que je me sens vraiment loin de ce que je pense que c'est le Québec. Puis quand c'est con, puis c'est vraiment poussé, mais quand que je vois, mettons, plein de monde de mon âge se mettre ensemble, puis tout le monde chante la même chanson. Puis je me sens moins seule dans ma vision du Québec et du monde en général.
Et vous allez chanter laquelle maintenant?
J'ai demandé à la lune. Parfait. Puis mine de rien, c'est aussi des chansons que j'ai comme j'ai choisi qui ont aussi eu beaucoup de succès au Québec.
On va tous pouvoir chanter avec vous.
Oui.
On y va?
Oui. Salut, c'est Safia Nolin. Toute seule en studio avec Aurélie Charon pour Tous en scène sur France Culture. Après, vous retrouvez dans la salle de répétition Mohamed El Khatib et les enfants à l'Espace Cardin à Paris.
J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Montrer mes brûlures, la lune s'est moquée de moi, et comme le ciel n'avait pas fière allure, La lune s'est moquée de moi. J'imagine toujours le pire et le meilleur me fait souffrir.
On est de retour à l'espace Cardin à Paris. C'est la fin du filage pour les enfants qui jouent dans La Dispute, mise en scène par Mohamed El-Khatib. Le temps de détacher leur micro, de prendre leur sac pour le goûter, avant que les parents n'arrivent pour les chercher.
Je m'appelle Eloréa et j'ai 9 ans.
Je m'appelle Camille et j'ai 9 ans et demi.
Je m'appelle Maëla et j'ai 10 ans.
Je m'appelle Solal et j'ai 8 ans et demi.
Je m'appelle Malik et j'ai 8 ans et demi.
Et qu'est-ce qui vous a donné au tout début envie de faire le spectacle ?
Parce que ça permet d'exprimer ce qu'on ressent. Et ce qui est bien dans ce spectacle, c'est qu'on dit notre histoire et non le dialogue de quelqu'un où on invente le texte. Là, c'est notre histoire à nous.
Ben, moi, lors du casting, au début, je ne savais pas du tout que c'était du théâtre.
Donc, quoi ?
Mon père il m'avait juste dit, parce que j'étais allée avec mon père, que il y avait des personnes qui posaient des questions à des enfants aux parents séparés. Moi j'avais juste eu ça comme renseignement et là après on m'a dit est-ce que tu veux faire partie d'une troupe c'est au début je savais vraiment pas que c'était du théâtre.
Parce que là c'est une série de spectacles, ça va partout dans la France et surtout c'est plein de représentations dans un endroit.
Et aussi, moi, je savais pas qu'on allait gagner de l'argent. Et ça, je trouve que c'est quand même pas mal aussi.
Moi, je trouve que c'est quand même une belle aventure de faire du théâtre.
Et puis aussi de rencontrer des copains.
Et puis, c'est pas comme le petit spectacle de fin d'année. Là, c'est pro.
Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez jamais dites dans la vie et qu'on peut dire sur une scène de théâtre ?
Des fois qu'on peut dire qu'on préfère notre beau-père à notre père et qu'on n'ose pas le dire à nos parents parce qu'on a peur de leur réaction ou de leur comment ils vont s'exprimer.
On peut croire que c'est le metteur en scène qui a demandé de dire ça alors que c'est vraiment nous qui pensons que c'est vraiment nous qui aimons notre beau-père.
moi aussi, comme Camille,
je me demandais, on m'avait pas du tout dit que c'était pour faire un spectacle et tout. Je croyais que c'était juste un metteur en scène qui voulait parler à des enfants. Et puis maintenant, voilà.
On m'avait dit que c'était des personnes qui voulaient avoir des idées pour faire un spectacle à l'école.
Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez pas dire, pas raconter, et vous avez dit à Mohamed, ça j'ai pas envie de le raconter?
Moi, dans certaines de mes représentations, mes parents ils vont venir me voir, et j'ai aussi peur de leur réaction quand je vais dire un texte. J'ai peur que... on avait dit la vérité dans les vidéos où ils nous avaient interrogés lors du casting. Je sais pas vraiment pas comment ils vont réagir, et j'ai vraiment peur de leur réaction, puisque je pense qu'il y a des choses qui vont pas leur plaire.
Ils ont encore rien vu, vos parents, du spectacle? Vous leur avez raconté?
Moi, j'ai raconté un petit peu quelques petites choses. Après, mon père, il a vu la première semaine des répétitions, il a vu quelques extraits du spectacle.
Moi, je leur garde la surprise.
Moi, je leur dis rien parce que ça va être découvrir, et j'ai hâte de découvrir leurs émotions après le théâtre, s'ils vont être déçus ou contents ou fiers de nous.
Peut-être que... Moi, j'ai pas envie de dire à ma mère, mais on est obligé pour réviser les textes et ça, mais sinon, elle sait pas comment ça va dérouler dans l'ordre et tout ça.
Moi, ma mère, elle a juste vu les textes, quelques-uns, mais pas tous. Voilà.
Et dans le spectacle, parce qu'on est au théâtre, on s'amuse aussi avec ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Parce que par moment, vous dites, moi j'ai dit ça, mais en fait, la vérité, c'est ça.
Ouais.
Y a plus de vérité ou de mensonge dans la pièce?
De mensonge.
Vérité.
Non, mensonge.
Vérité.
Vérité.
Mensonge.
Moi, tous mes textes, ils étaient tous faux, donc c'est pour ça que j'ai eu plus de mal à dire ces textes que si c'était vrai. Si c'était vrai, je l'aurais dit comme ça, quoi. Maintenant, je dois... C'est pas les vraies choses.
Ils étaient peut-être pas vrais, mais ils étaient peut-être à quelqu'un.
Mohamed, il a dit qu'ils étaient à... On regroupait, on mélangeait plusieurs textes de toutes les personnes qu'ils ont interrogées.
Et à la fin, il y a plein de questions aux parents. C'est quoi vos questions préférées?
Moi, j'ai pas de questions préférées. Je trouve qu'elles sont toutes bien.
Ça peut leur donner des fois une leçon un petit peu, parce qu'ils font des trucs et là on leur rappelle qu'il faut pas faire des trucs, ou des fois ça peut leur apprendre des trucs et ils peuvent réfléchir aux questions qu'on leur pose et après nous dire la réponse.
Moi, ma question préférée, c'est quand je dis vous pensiez nous rendre service quand vous disiez qu'on était ce qu'il y a de plus précieux au monde. C'est ma question préférée.
Et moi, c'est j'aime bien vous pensez qu'on va vous prendre comme modèle, ou est-ce qu'on quand vous aurez trouvé un autre amoureux, est-ce qu'on sera obligé de l'aimer, est-ce qu'ils seront obligés de nous aimer aussi?
Et tout à l'heure, vous disiez maintenant on dit pas forcément les textes qui sont à nous, enfin c'est pas forcément votre histoire, donc vous devenez des vrais comédiens, des vrais acteurs, des vraies actrices. C'est quoi le plus dur pour vous, quand vous jouez, le plus difficile et le plus agréable aussi?
Moi, je trouve que le plus dur, c'est aussi quand on bouge, comment on remet l'ego à leur place et tout. Je trouve ça un peu dur parfois.
Moi, je trouve que c'est quand... déjà, tu dois apprendre les textes. Déjà, des fois, on ne te laisse pas beaucoup de temps pour les apprendre. Et ce qui est bien, c'est que tu t'amuses, tu peux te faire des copains. Et voilà, la compagnie, elle est vraiment cool, je trouve.
Et c'est quoi les questions que vous aimeriez poser à Mohamed El Khatib, votre metteur en scène, et que vous n'avez pas forcément osé lui poser?
Pourquoi un spectacle sur ce thème?
Moi, je voulais dire à Mohamed s'il préférait son père ou sa mère, mais j'ai pas eu trop l'occasion.
Moi, je voulais dire s'il avait des parents séparés.
Pareil. Parce que c'est quand même important de faire, quand tu fais un spectacle sur ce thème-là, c'est bien d'avoir de la connaissance.
Moi, je me demande comment il a pu avoir l'idée de faire tout en Lego.
Et vous avez hâte que ce soit la première? Vous pensez que ça va être comment la première, avec le public?
Ça va être gravé pour toute la vie dans notre corps.
Je pense qu'il y a plusieurs stress et ça peut être et le stress émouvant de faire ce spectacle et un stress qui ne nous rend pas bien. Mais ça peut être plutôt celui où on donne quelque chose de public que ce qu'il attend, un spectacle.
Moi aussi j'ai un peu peur que si on se trompe et qu'on invente quelque chose, après on part dans ça et on n'arrive plus à revenir dans le vrai texte.
Et si dans l'émission de radio on doit mettre une musique, qu'est-ce que vous nous conseilleriez de mettre comme chanson? Qu'est-ce que vous aimez?
Une chanson peut-être un peu triste, émouvante, qui peut parler comme d'une dispute en musique.
Peut-être la chanson dont on parle un moment dans la pièce de théâtre.
Full sentimental, non?
Oui. Parce que ça rappelle les sentiments et c'est quand même plusieurs parents et plusieurs enfants qui disent donc de la foule, plusieurs parents qui se séparent et plusieurs enfants qui les regardent se séparer.
Ce n'est pas la première fois que Mohamed El-Khatib travaille avec des acteurs non professionnels. Il a déjà imaginé des spectacles, par exemple avec Corinne Dada, qui était femme de ménage, avec des supporters de football dans le spectacle Stadium. Il crée chaque fois sur scène des moments particuliers, comme récemment une conversation improvisée avec le cinéaste Alain Cavalier, ce qui donne des objets de théâtre singuliers et parfois éphémères.
C'est une grande liberté. Je trouve que c'est une grande liberté et que c'est beaucoup plus juste. Je veux dire par là que l'erreur avec Corinne Dada, c'est qu'on ait fait ce spectacle pendant 5 ans. Et dans le fond, ça n'a pas de sens. Même si j'étais très content pour ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu avec Corinne.
Qu'on retrouve dans Stadium.
et dans Renaud 12 également, et probablement dans la prochaine. Je trouve que c'est plus juste, c'est-à-dire c'est une façon de s'échapper au calibrage du spectacle vivant qui vous oblige à produire un spectacle et puis essayer de le tourner au maximum pendant plusieurs années, de le faire rentrer au répertoire, etc. Je trouve que ça donne la force, c'est-à-dire de faire des projets éphémères qui ont une durée de vie limitée et je trouve qu'on gagne en intensité. Et ça, sans doute, je l'ai touché du doigt avec Alain Cavalier dans la conversation qu'on a eue, qui est une conversation improvisée, donc qui est pour moi un idéal de spectacle, c'est-à-dire que ne se joue jamais la même chose. Ça ne se fait que deux fois par mois pour qu'on ait une certaine fraîcheur, un certain désir à se retrouver. Et dans les conditions qui sont justes pour le projet. Alors que si on avait répondu aux pressions du marché théâtral, c'est-à-dire qu'on aurait pu jouer 150 fois, et ça aurait complètement altéré l'objet. Et là, je trouve ça maintenant plutôt excitant et plutôt juste de dire, tiens, ce projet avec les enfants, sa justesse, c'est une année scolaire. Et au-delà, c'est terminé. Parce qu'au-delà, on va devenir on va se mettre à se singer nous-mêmes, les enfants vont se mettre à jouer les enfants qu'ils étaient il y a un an et qui seront plus du tout dans un an. Et maintenant, j'essaie d'appréhender, en tout cas, les projets avec cette durée de vie-là et essayer d'être au plus près du sujet qu'on traite. Et je crois que c'est ça, c'est le respect minimum qu'on doit aux gens, c'est de se dire, bon, bah, prenons en compte votre désir à nous et essayant de s'échapper un peu de la machinerie théâtrale qui a ces logiques de production qui sont quasi capitalistes dans l'organisation du travail.
Et avant, sur scène, au tout début, c'était vous l'enfant. Puisque dans Finir en beauté, un de vos premiers spectacles, vous parlez de la mort de votre mère et donc vous vous placez vraiment en tant qu'enfant qui parle à sa mère, qui parle à son père, qui parle à ses parents.
Oui, c'est amusant parce que et souvent je disais la distance que j'ai pris avec les acteurs, elle est à cet endroit-là. Pour moi, un des paris, c'est de dire à la fin de Finir en beauté, on doit pas se dire il joue bien ou il joue pas bien. C'est pas l'enjeu. C'est le fils de sa mère. Donc c'est l'enfant. Donc on a le témoignage de l'enfant qui parle de sa mère. Et ça a été le moteur aussi pour Renaud 12, qui est la suite cinématographique de Finir en beauté, où d'une certaine façon, quand vous perdez votre mère, vous devenez adulte. Et que Renaud XII, je l'ai raconté à ma fille. Et qu'il y avait donc encore un autre enfant qui était le moteur de cette histoire, pour pouvoir transmettre cette histoire. Et...
En tout cas, cette relation parent-enfant, elle est souvent présente. En tout cas, elle était présente dans Finir en beauté. Et il y a un texte, un des textes que vous aviez écrit à ce moment-là, qui posait aussi des questions, parce que là, dans la dispute, il y a des questions des enfants aux parents. Et là, vous écriviez, donc, si on avait pu faire différemment, j'aurais été un fils irréprochable. Les parents se demandent toujours s'ils ont été de bons parents. Mais nous, est-ce qu'on a été de bons enfants? On a été des enfants au niveau, nous? Est-ce qu'on a été des enfants olympiques, nous?
Oui, c'est comme quoi, c'est une obsession hein, depuis 2010.
Après, dans ses premiers spectacles, Finir en beauté, et je pense à C'est la vie aussi, où là, c'était deux personnes qui ont perdu un enfant. C'était des enfants ou des parents, mais c'était autour du deuil. Et là, dans la dispute, on n'est évidemment pas là-dedans. C'est des enfants qui prennent la parole et finalement qui parlent de séparation, mais qui parlent beaucoup d'amour.
C'est un micro-deuil aussi, d'une certaine façon. Alors, c'est vrai que si je regarde comme ça, rétrospectivement... Depuis Finir en beauté, avec cette obsession de l'enfance, l'enfant du fils à sa mère, qui s'émancipe puis qui raconte l'histoire à sa fille, Daniel et Fanny qui ont perdu un enfant, qui est, on peut le dire, qui est la tragédie ultime de perdre un enfant, et comment on continue à vivre avec ça, comment on continue à vivre avec ça, est-ce qu'on peut refaire sa vie après ça? Et là, c'est un pas de côté, mais d'une certaine façon, sur les premières discussions que j'ai eues avec les enfants, il y avait cette question du deuil, le deuil de avant, c'est-à-dire avant papa et maman ensemble, avant une cellule familiale, et puis l'après, comment je continue à vivre avec ça, comment je refais ma vie avec ça. Et c'est cette question de bascule qui m'intéresse, comment on refait sa vie, comme d'une situation, alors ça va du néant pour la disparition, à une cellule familiale plus ou moins idéalisée, etc. Et comment on se construit, on se refait. Et l'avantage, la force des enfants, c'est qu'ils ne cultivent pas la nostalgie. Et qu'il y a quelque chose, il y a une force de vie, de joie qui est tournée vers l'avenir. Et assez vite, spontanément, dans les discussions, il y a quelque chose de « moi, je veux devenir ça. Moi, je ne me séparerai pas. Moi, je me séparerai. Et moi, je veux devenir chirurgien, j'aurai plein d'enfants. » Et moi... Et ça, c'est ce qui a apporté un peu cette création.
J'ai posé la question aux enfants. Quelle question vous n'avez jamais osé poser à Mohamed El-Khatib et vous aimeriez lui poser? Et presque tous, c'était pourquoi tu as voulu faire ce spectacle? Pourquoi tu as voulu parler de la séparation? Et est-ce que j'aimerais savoir si ses parents ont été séparés ou pas?
C'est drôle. C'est pourquoi j'ai voulu faire ce spectacle, je pense que je le serai dans quelques années. Souvent, on fait les choses, mais on ne sait pas pourquoi on les fait. Mais moi, je viens d'une génération où quand il y avait un enfant ou deux enfants divorcés dans la classe, c'est le grand maximum. Quoi. On ne se séparait pas. Mes parents, qui sont issus de l'immigration, un modèle religieux, viennent d'une culture où on ne se sépare pas. La séparation n'est pas dans mon paysage. Et c'est de leur faute si on a abordé la question de la séparation. C'est que c'était pas un sujet de prédilection pour moi, je ne cherchais pas une thématique. Mais c'est que j'ai observé incidemment que chez eux, c'était une préoccupation. Et donc, c'est bien à cause d'eux qu'on traite ce sujet. Et je suis content parce que c'est un sujet qui est très très peu abordé, qui concerne aujourd'hui beaucoup d'enfants.
Et vous, quelle question vous n'avez jamais posée à vos parents que vous aimeriez poser?
C'est vrai que je me la suis jamais posée. Moi, j'aurais bien voulu savoir si ma mère, elle a été heureuse.
Et peut-être une dernière question. Qu'est-ce que ça vous apporte, le lien avec... puisque vous travaillez là avec Alain Cavalier, bientôt avec Patrick Boucheron, qui est historien, avec Valérie Mregène pour une performance. Qu'est-ce que ça a d'aller chercher un cinéaste, un historien, une artiste plus plasticienne? Qu'est-ce que ça nourrit dans votre travail?
C'est une forme de curiosité. D'abord, souvent, c'est le hasard des rencontres, en tout cas, ou des connexions qui se font comme ça, par la vie, toujours pour différentes raisons. Mais c'est une façon de se déplacer, de faire un pas de côté. J'ai besoin de pouvoir réalimenter ma pratique théâtrale. Et du coup, faire un pas de côté dans le champ historique, ou cinématographique, ou d'être en dialogue avec une plasticienne. C'est une façon de reconsidérer mon travail d'un autre endroit. Et c'est une façon de pas s'endormir. Et ça m'oblige aussi à prendre des risques. C'est-à-dire d'une certaine façon de s'exposer, quoi, de se mettre à nu. Et de se dire, par exemple, l'aventure avec Alain, à un moment donné, elle me fait presque songer à arrêter le théâtre. Parce que formellement, on met le doigt sur un endroit de travail qui vous fait dire, mais quand même, le reste, ça n'a pas beaucoup de sens. Quand même, écrire un texte, appeler des acteurs qui vont dire ce texte avec plus ou moins de talent, dans une scénographie plus ou moins réussie, etc., c'est quand même un exercice assez fade, quand bien même les artisans sont bons et que c'est bien foutu, et que là vous touchez à un moment de vie extrêmement fragile, parfois avec grâce et parfois c'est plus laborieux, et donc ça remet en question le sens de ce que vous faites, la façon dont vous le produisez, la façon dont vous le diffusez, etc. Là je retrouve quelque chose de cet ordre-là avec les enfants, mais heureusement on est protégé par la durée. Et ce qui peut-être ce qui est amusant aussi avec Patrick Boucheron, c'est par exemple, je pense qu'on a un certain nombre de désaccords sans doute politiques. Et je trouvais ça amusant de travailler aussi avec des gens avec lesquels vous n'êtes pas forcément d'accord. Et c'est une façon d'aller à l'épreuve. Et en même temps, il se trouve qu'on a travaillé sur la boule à neige, qui est un objet qui nous tient à cœur. Et les premières discussions, les premiers dialogues qu'on a sont plutôt excitants et moi me sortent de ma zone de confort. J'ai le sentiment que je pourrais continuer à faire des spectacles comme ça, dont on serait content, et en fait ça serait assez triste. Et donc c'est simplement une façon d'aller chercher, de se risquer, quoi, d'aller chercher de la confrontation.
Commencé par les enfants, on a tous eu 8 ans, on a tous mentalement reparlé à ses parents avec une liste de questions sans réponse. La dispute, mise en scène par Mohamed El-Khatib, c'est au Théâtre de la Ville, à l'Espace Cardin, jusqu'au 1er décembre avec le Festival d'automne et puis en tournée. Je dis merci à Lionel Quentin pour la réalisation de cette émission, merci à Inès Dupéron pour la préparation. Merci à la prise de son au théâtre à Laurent Lucas et en studio à Bruno Mourlan et Mathieu Tourin. Bientôt, il sera 21h, vous écoutez France Culture, c'est l'heure de Théâtre et Compagnie avec Blandine Masson.